Et on reçoit aujourd'hui sur Radio Judaïka Ilana Sicurel, députée européenne.
Bonjour Lise, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs, ravie d'être avec vous.
Merci d'être avec nous. Alors on est ensemble en direct de ce Parlement européen où Volodymyr Zelensky vient juste de s'exprimer. C'était vraiment émouvant Ilana.
Écoutez, c'était extrêmement émouvant. Je n'ai jamais vu d'abord le Parlement aussi bondé. Hein, il y avait des gens partout. C'était vraiment le peuple européen qui a accueilli Volodymyr Zelensky. Et pour nous, députés, on l'avait déjà, on avait eu le grand honneur de le recevoir deux fois. Une fois d'ailleurs pour lui remettre le prix Sakharov, non pas à lui, mais au peuple ukrainien, au valeureux peuple ukrainien. Et donc, on avait déjà eu l'honneur de le voir à travers un écran. Mais le voir en chair et en os, c'était évidemment quelque chose d'extrêmement émouvant. Et moi, j'ai été frappée par sa grande sobriété. Sa manière d'aller à l'essentiel, sans fioritures, et sa manière d'insister beaucoup sur le mode de vie européen. Et moi, ça me touche beaucoup parce que je trouve qu'on oublie trop souvent, oui, que l'Europe, c'est une civilisation, que l'Europe, c'est cette liberté acquise difficilement, hein, qui est précieuse et qui n'est pas forcément éternelle. Donc et l'enjeu civilisationnel des Ukrainiens qui aspirent à vivre dans une société libre redonne tout son sens à l'Europe. Et c'est ce que j'ai senti de manière très forte, à la fois chez les gens qui étaient là, dans son discours, où il a d'ailleurs aussi de manière très saisissante fait une énumération de tout ce qui compose le peuple européen. Hein, vous, policiers, vous, enseignants, vous, qui que vous soyez, vous devez construire l'Europe. Et nous ne nous battons pas seulement pour nous, mais pour vous, pour nos valeurs communes. Et tout ça, ce n'est pas du tout creux. C'est l'essence de l'Europe. Je crois qu'il y a vraiment le sentiment que l'Ukraine a toute sa place en Europe. Après, il faut que ça suive. Alors, on est dans un moment, parce que c'est joli, les cérémonies, mais il faut que ça suive. C'est un peuple qui se bat, qui a besoin d'être aidé, hein, face à une puissance à la fois dictatoriale et tout de même très armée et qui a aussi ses alliés. Donc, ça coïncide aussi avec un moment d'engagement plus fort de l'Europe, en particulier de la France. Et donc évidemment, tout ça est à la fois émouvant, mais il faut suivre, il faut que ça aille jusqu'à son terme et que l'Ukraine puisse retrouver sa souveraineté pleine et entière.
C'était plutôt un discours de remerciement plutôt que de demande, en fait. On s'attendait à ce que Volodymyr Zelensky parle plus peut-être des chars dont il a besoin, des avions de chasse, et ça n'a pas été ça. Il a plutôt parlé de valeurs, de philosophie et dit merci plusieurs fois à l'Europe.
C'est vrai, il sait que le Parlement européen a été très en soutien. Il s'adressera au Conseil peut-être avec des demandes plus précises, mais il sait qu'au Parlement européen, c'est un message politique et c'est finalement aussi l'essentiel de ce combat. Il sait que ce n'est pas nous qui allons décider le nombre de chars et le délai dans lesquels ils vont arriver. Mais pour nourrir ce soutien, il était important de réaffirmer le sens de ce combat de l'Ukraine, qui est un combat pour la liberté. Et nous, c'est ce qui nous a aussi beaucoup frappé, pour beaucoup d'entre nous aussi qui avons été en contact avec les Ukrainiens depuis longtemps, même avant le conflit, c'est qu'ils aspirent à avoir une société de liberté, de respect de l'individu et du droit. Et ça, c'est essentiel. C'est pour ça que moi, je suis très attachée aussi à ce que l'Europe, ce ne soit pas seulement des histoires de commerce, de gros sous, mais essentiellement d'éducation, de valeurs, de culture.
Alors, d'éducation, c'est une commission justement dans laquelle vous êtes impliqué, Ilana Sicurel. Et puis, l'éducation à l'antisémitisme, en tout cas la lutte contre l'antisémitisme qui ne peut passer que par l'éducation, c'est un grand sujet aujourd'hui en Europe.
Alors, c'est un grand sujet. Et d'ailleurs, les pays européens sous présidence française se sont tous engagés à adopter des plans d'action contre l'antisémitisme. Et la France, qui a présenté le sien il y a un peu plus d'une semaine, est un peu pionnière en la matière. Et ce qui est frappant dans ce plan, c'est que c'est un plan qui est interministériel. Il a d'ailleurs été présenté par la Première ministre Elisabeth Borne en présence d'une dizaine de ministres, alors qu'on traverse quand même une période dont Olivier Dussopt, qui est un petit peu occupé en ce moment. Donc, je crois que ce qui est très intéressant dans ce plan, c'est son côté interministériel. On ne peut lutter contre l'antisémitisme qu'en ayant un plan global. et où la justice, la police, l'éducation, tout le monde est autour de la table pour lutter et adapter, hein, parce que évidemment l'antisémitisme il évolue sous ses formes cyber et donc il faut et malheureusement il s'ancre en Europe. Donc moi, comme députée européenne, je vais partager avec mes collègues qui sont, comme moi, membres d'un groupe de travail informel qui réunit donc les députés les plus mobilisés sur cette question. Et on va échanger sur ces plans, parce que chacun s'est engagé à en lancer un. Et la France est en pointe, mais elle doit entraîner, avoir un effet moteur au sein de l'Europe et suivre l'efficacité, puisque malheureusement, c'est triste à dire, mais l'antisémitisme est une réalité qui s'ancre dans l'Europe contemporaine.
Et justement, est-ce qu'il y a une lutte finalement commune? Parce que c'est ça aussi le problème aujourd'hui. Les frontières de l'Europe, elles sont poreuses et ça participe largement du déplacement des islamistes.
Écoutez, en tout cas, puisque vous parlez des islamistes, moi je voudrais aussi parler d'un autre combat qui est parallèle et qui est celui qui ressort régulièrement sur le financement par la Commission à ses dépenses, bien évidemment, à d'un certain nombre d'organisations qui se rattachent à l'islamisme. Alors ils ne vont pas le mettre dans leur charte en noir sur blanc, mais en tout cas, à titre personnel, je suis extrêmement vigilante sur ce point. Je viens d'ailleurs de rejoindre, en plus de mes autres fonctions précédentes, notamment en matière d'éducation, de culture et d'affaires juridiques, la commission qu'on appelle contrôle budgétaire, c'est-à-dire que l'une des grandes forces du Parlement, c'est de s'assurer que les fonds européens ont été bien utilisés. Et parmi mes combats, il y a, et nous avons d'ailleurs à une très forte majorité fait adopter un amendement que nous avions porté sur la demande expresse que cesse toute forme de financement à des organisations qui s'inscrivent dans l'islamisme, en citant d'ailleurs expressément, mais pas de manière exclusive, les frères musulmans. C'est quelque chose. Donc on est à l'affût de cela parce que la commission n'est pas pro-islamiste, mais elle se laisse parfois, je dirais, berner par des organisations islamistes qui sont très fortes en lobbying, qui ont très bien compris le vocabulaire des droits de l'homme et qui les utilisent au détriment de la liberté. Hein, c'est les ennemis de la liberté qui se drapent la protection de la liberté. Tout ça est assez pervers. Donc nous sommes très mobilisés. Et la bonne nouvelle que j'ai à partager avec vous, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux au Parlement à être sur cette ligne. Et c'est vrai aussi du Conseil, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement. Je vous donne un exemple. C'est vraiment de l'actu. Hein, ça date d'il y a même pas quelques jours. Il y a toujours une coordinatrice à la lutte contre l'islamophobie. Et nous, on n'aime pas ce terme d'islamophobie parce que c'est un terme très marqué qui a été créé par les islamistes, en gros, pour interdire toute forme de critique de l'islam radical. Et on le sait, c'est marqué. Et donc, du coup, alors que la haine anti-musulman, c'est un combat républicain que nous portons avec force. Et il faut, donc, nous avons réussi à faire en sorte que cette coordinatrice soit nommée coordinatrice contre la haine anti-musulman. Ça a l'air de rien, mais c'est une petite victoire sémantique qui a été portée par la France en coulisses et qui est très importante parce qu'on commence à comprendre que... Parce que c'est très dangereux de dire que l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Ça arrange à la fois l'extrême droite, hein, ça permet de détester une grande partie de nos contemporains qui ne méritent pas d'être associés aux islamistes, qui sont des musulmans, républicains, et qui s'inscrivent tout à fait dans nos valeurs. Et ça arrange évidemment les islamistes, parce que ça leur donne une position de représentation de l'ensemble des Français musulmans. Donc vous voyez que les enjeux sont importants. Et en tout cas, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une prise de conscience. Et j'ai envie aussi de m'adresser aux musulmans en disant attention, ne vous laissez pas raconter que quand on ne veut pas du mot islamophobie, on ne veut pas lutter contre la haine anti-musulman. Et que du coup, c'est très dangereux. Donc voilà. Donc ça, c'est une petite victoire, mais parmi d'autres. Et donc, on est très vigilants. Et surtout, on ne veut pas, et comptez sur moi pour veiller à ce qu'aucun denier européen n'aille financer des organisations qui œuvrent contre la lutte, contre les valeurs qui nous unissent.
Et c'est le cas aussi des manuels palestiniens, souvent, auxquels on reproche à l'Europe d'allouer des fonds sans forcément le vouloir, c'est vrai.
Alors là, vous êtes sur un sujet qui m'est cher. Depuis mon entrée au Parlement, je lutte pour cela. Nous avons eu gain de cause une année parce que vous avez ce contrôle a posteriori des fonds européens dont je vous ai parlé. Et là, on a un peu de mal. Pourquoi ? Parce que ce financement des manuels palestiniens, qui ont des contenus haineux. Ça a été établi et je peux vous donner quelques exemples, mais ça va l'éloge des chaïds à la haine d'Israël la plus violente. Donc on est vraiment dans un antisémitisme violent et qui perdure. Donc l'argent qui va financer l'éducation à travers via l'UNRWA ne va pas directement au manuel. Donc certains vous disent « Ah, mais ce n'est pas vraiment un financement ». Mais quand vous financez l'éducation, vous financez des professeurs qui écrivent ces manuels et qui les enseignent. Et notre objectif n'est pas de couper le financement de l'éducation, parce que l'éducation, c'est très important. Mais c'est qu'il y ait une partie symbolique, ça peut être 10%, qui soit à un moment donné coupée pour dire « Nous ne validons pas cette manière que vous avez de fermer les yeux sur ces contenus. Hein, » Et à un moment donné, quand il n'y a pas une sanction financière, ça ne sert à rien. Donc on va continuer le combat, il est devant nous, hein, ça fait partie des dossiers que vous voyez autour de moi. Et je crois qu'il faut que les collègues se rendent compte, et je vais faire un travail d'ailleurs très précis pour qu'ils aient en face d'eux, concrètement, que ce ne soit pas une question idéologique, mais qu'ils aient en face d'eux des problèmes de maths où vous avez comme exemple des martyrs. Ça rentre, c'est encore pire, vous savez, quand ce n'est pas en histoire, mais quand c'est dans les exemples de mathématiques. Là, vous sentez que vous êtes dans le profond de la conscience des enfants qui grandissent avec cette idée que c'est normal d'avoir des gens dont l'objectif, c'est de tuer des civils israéliens, et c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire avancer la paix. Donc, et moi, mon deuxième combat, c'est que, parce que je fais aussi partie de la délégation qui s'occupe des liens entre l'Union européenne et Israël, c'est qu'on sépare la question territoriale, la question strictement politique. On peut avoir des différends avec le gouvernement israélien qui vient d'être nommé n'est pas forcément au goût d'un certain nombre de dirigeants européens, hein, mais il y a une coopération scientifique et commerciale avec Israël, qui est un partenaire de l'Union européenne, qui est la plus puissante, aussi bien, c'est le premier partenaire commercial et c'est le premier partenaire scientifique, ça on ne le sait pas assez. Eh bien ça, il faut que ce soit, je dirais, il faut qu'il y ait un cordon sanitaire pour le préserver. Et ça, c'est mon rôle de dire, écoutez, d'un côté, vous avez les enjeux politiques, on peut discuter, même quand on est des partenaires, on peut dire quand on n'est pas d'accord. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait la moindre répercussion sur ce partenariat commercial scientifique qui est fondamental entre société civile. Et ça, il y a même la culture qui vient d'être intégrée. Et ça, je vais vraiment faire tout mon possible pour que ça continue à se développer, même s'il y a des différends sur le plan politique, que ça ne touche pas à ce partenariat qui est pour moi très important, pour les Israéliens comme pour les Européens.
Merci beaucoup, Ilana Sicurel, pour toutes ces réponses. À très bientôt.
À très bientôt.